qu'il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous.
Mon nom est Francis Parent-Valiquette et vous écoutez le Centro Show.
Mais le plus important, c'est qu'il est bélier.
Quatrième édition des Longs Samedis. J'ai pris un petit break entre le dernier épisode et celui-ci. Je me laisse une certaine latitude quand même parce que les longues formes, c'est long à faire. Au début, je voulais en sortir un par semaine. Et sincèrement, avec la quotidienne, avec Webmass, avec la job, c'était trop. Puis je vais essayer d'en sortir un, au moins un par mois. Pour cette quatrième édition, je suis vraiment content. J'ai reçu Alain Guillotte, qui est un podcasteur, entrepreneur en série, influenceur, blogueur, photographe, web développeur. Il est plein de choses, mais c'est quelqu'un que, depuis que j'ai rencontré sur LinkedIn, qui me fascine. C'est un modèle pour moi, c'est un mentor pour moi, parce qu'un mentor n'a pas besoin de le savoir qui est ton mentor, mais j'aime sa position. Il y a une position de frugalité. Quand tout le monde, présentement, veut juste plus, veut grossir, veut... lui, on dirait qu'il prend un step back et il dit « Écoute, est-ce que j'ai besoin de ça? » Il est un très gros dans la simplicité volontaire, dans la frugalité, dans bien vivre, dans avoir du plaisir. C'est un modèle que j'aime suivre. J'aime écouter le contenu d'Alain. J'aime son podcast, j'aime ses articles de blog, j'aime sa position. Alain est une personne qui s'exprime en anglais. Quand je faisais ma liste de personnes que j'aurais aimé avoir une discussion avec sur les longues formes, Alain en faisait partie. Comme il parle anglais, il y a plusieurs personnes qui parlent anglais que je me dis, mon auditoire est francophone, mon podcast est francophone, est-ce que j'invite quelqu'un d'anglophone? Alain met une annonce sur LinkedIn qui dit, j'ai 135 épisodes de podcast de fait et j'aimerais participer dans vos podcasts. Et j'ai envoyé la ligne, je dis, hey, ça te tenterait-tu d'en faire un en français? Parce que lui, il est colombien d'origine, il parle espagnol. Tout son contenu est en anglais et je ne l'ai jamais entendu parler en français d'ailleurs. Donc, j'ai dit « serais-tu game? » Puis il m'a répondu quelque chose comme « si tu ne te moques pas de moi, je suis game. » Ça fait comme « ok, on boucle le rendez-vous. » Et sincèrement, il est très bon en français. Il n'y a aucune honte à avoir. Je pense qu'il avait peur. Vous allez le voir. Il a mon respect. Je ne sais pas si je serais game d'aller faire un podcast en espagnol. Je ne parle pas aussi bien espagnol que lui parle français. Mais quand même, il y a tellement de gens des fois intéressants que je leur parle de faire un podcast puis qui ont la gêne de parler, sûrement pour des niaiseries du genre qui se trouvent la voix trop aiguë ou je ne sais pas. Et Alain est venu parler avec moi pendant 1 heure et demie dans une troisième langue. Félicitations. Sur ce, passons à mon entrevue avec Alain Guillotte. Bonjour Alain, premièrement je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation à te joindre sur le Centro Show parce que tu le sais peut-être pas, mais je te suis depuis longtemps sur ton podcast, je lis tes articles de blog, j'adore ta position de frugalité, j'adore la position que tu vas un peu à l'inverse de tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde en veut plus et toi tu es comme un peu mon preacher qui me dit non, comme relax, life is good, tu peux travailler quelques heures par jour, faire quelques centaines de dollars et être heureux. Fait que c'est ce que je voulais te dire. Je voulais te remercier d'être là. Ça me touche vraiment que tu sois ici avec moi aujourd'hui.
Ça me fait du plaisir d'être ici avec toi, Francis. Et bien sûr, ma position, si tu prends une seconde à réfléchir, c'est quoi la chose la plus précieuse qu'on a dans la vie? Est-ce que c'est de l'argent ou est-ce que c'est du temps?
Définitivement le temps.
OK. Alors, si tu vois, je connais des amis, disons des avocats, des docteurs, je ne sais pas, des professionnels qui dépensent presque tout le moment de sa vie en train de travailler pour un jour être capable d'avoir le temps libre. Et on a la capacité de nos jours, d'aujourd'hui, de juste travailler assez pour se sentir satisfait de soi-même comme contributeur de notre société. Et en même temps, profiter du temps avec notre femme, notre mari, nos enfants, du beau soleil, de l'hiver, de l'été. Alors, c'est ça ma position. Je considère que, bien sûr, il faut travailler pour être un contribuable, pour se sentir bien de soi, qu'on a fait son parti pour contribuer à notre société. Mais de là à être un esclave de soi, de notre travail, de notre horaire, de notre horloge, c'est deux choses totalement différentes. Alors oui, ma position, c'est une position de frugalité. J'ai préfère travailler juste assez pour me sentir bien de moi-même. Et après ça, de profiter de la vie, de profiter du soleil, tu sais. Une des choses que j'aime le plus, c'est d'aller prendre un café, disons, à 3h de l'après-midi. Une autre chose que j'aime le plus, c'est de, au milieu de journée, de prendre un petit siesta, comme on dit les latinos. Et voilà. Et comment j'ai pu arriver à ça? Alors, j'achète pas un gros maçon, j'achète pas une voiture chère, j'achète assez pour me maintenir, pour être heureux de moi-même. Et après ça, j'essaie de profiter du temps libre pour connaître des gens comme toi. On s'est connus dans un événement social, mais j'avais le temps d'y aller. Et toi aussi, alors on a eu la chance de se rencontrer. Et puis, notre vie, la tienne et la mienne, se sont enrichies à cause de cet événement-là. Mais on a fait le temps pour aller se rencontrer, pour se fermer les mains et être là présente.
Oui, parce que je tends vers toi. C'est sûr que j'ai d'autres responsabilités, d'autres tracas, mais je tends beaucoup vers toi de prendre le temps. Pour moi, ça se résume, comme tu dis, faire ma sieste l'après-midi. Ceux qui me suivent le savent, comme l'après-midi, c'est sûr, je fais une sieste quasiment tous les jours. Je vais courir, donc pour moi aussi, c'est important. Mais toi, tu es un modèle, tu es comme 1000 pieds en avant de moi. puis je suis content de voir ça parce que souvent sur LinkedIn, il y a beaucoup d'influenceurs, on n'aimera pas de nom, mais qui sont beaucoup dans la performance, plus bâtir des entreprises, tu sais, comme quasiment t'es loser si tu performes pas comme au top. Quand dans le fond, tu l'as dit, notre ressource la plus précieuse, c'est notre temps. Je vais te présenter, on est rentré vite, je vais te présenter à mon auditoire. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas oublier de trucs parce qu'il y en a beaucoup. J'ai pris en note, tu es gradué en Business Administration de Concordia, tu as commencé ta carrière comme planificateur financier, tu es entrepreneur, blogueur, photographe, investisseur, tu es aussi rendu indépendant de fortune, ce qui est comme mon modèle, indépendant financier, je vais dire. Tu es rendu développeur web, surtout podcasteur, et j'avais oublié de mettre que tu es aussi un professeur de danse latine, et que tu as investi dans l'immobilier une bonne partie de ta vie. Donc, cette fois-ci, est-ce que j'ai oublié quelque chose?
C'est parfait, je pense que c'est tout. Mais là.
Il y a aussi ton alimentation végétalienne qu'on pourra peut-être revenir éventuellement.
Mais si quelqu'un entend tout ça, dit « Oh, ces personnes ne savent pas ce qu'ils veulent faire. » C'est une vie tellement désorganisée d'un endroit à l'autre. Il faut que ces personnes soient un peu focus. Mais la vie, c'est comme ça, Francis. Ça nous amène d'un côté à l'autre. Et voilà, c'est comme le fleuve Saint-Laurent. Alors, le fleuve Saint-Laurent, c'est pas un fleuve qui va complètement droit. Il fait des changements de direction constamment, mais en fin de compte, ça arrive à la mer.
Et que toi pas, je suis pas là pour te juger. Si tu savais tout ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé dans ma vie... de la construction d'encarteur. Écoute, j'ai même essayé dans les finances, moi aussi, j'étais incapable, agent de crédit bail. J'ai comme essayé à peu près tout ce qui existe. Fait que je ne suis pas là pour te juger. Je pense que c'est ça qui nous construit. Puis l'être humain, malheureusement, c'est pas comme une mouche, c'est une mouche. Nous, on ne sait pas ce qu'on est tant qu'on ne l'est pas. Il faut essayer plusieurs choses avant de savoir ce qu'on est. Tant mieux ceux qui, à 12 ans, savent qu'ils vont être médecins puis que c'est comme ça qu'ils se définissent, mais c'est pas mon cas. J'arrive à 40 ans puis je sais pas trop comment me définir encore. Première des choses, t'es d'origine colombienne, ta langue maternelle, c'est espagnol. Tu t'adresses en général en anglais sur les réseaux sociaux. Tous tes posts, ton podcast est en anglais. Je voulais t'inviter parce que j'aime ton contenu, mais comme mon auditoire est francophone, j'avais de la misère à le rentrer comment j'allais apporter ça. Et je t'ai mis au défi de parler, de faire un podcast en français parce que je t'avais jamais entendu parler français et tu as accepté. Donc, merci, bravo. Je ne sais pas si j'accepterais si tu me demandais d'en faire un en espagnol.
Mais je dois te dire que je me sentis insécure de moi-même quand tu m'as mis en défi. J'ai dit, oh, est-ce que je pourrais faire ça? Est-ce que je vais avoir... en fait, je t'ai répondu, bien sûr, je serais content de venir à ton podcast autant que tu ne te manques pas de moi.
Celui qui se moque de ceux qui essayent, j'aime vraiment pas ça. J'aime les gens qui font des choses. Tu sais, comme de mon côté, que je sois d'accord avec ce que tu fasses ou non, j'aime les gens qui font des choses, qui essayent de faire avancer les choses, même si ça va contre mes valeurs. Quelqu'un qui fait bouger les choses, j'aime ça. C'est comme juste de le voir. Fait que quelqu'un qui essaye, qui avance, on n'a pas le droit de se moquer de ces gens-là. Bravo. Bravo d'être là. C'est quoi ta ville d'origine en Colombie?
C'est une ville, ça s'appelle Barranquilla. C'est un peu plus ou moins comme Montréal. C'est une ville qui est à côté de la mer et d'un fleuve aussi. Mais c'est dans les Caraïbes et c'est une ville industrielle. Mais je suis parti de là parce que je n'avais pas une bonne vie. J'étais jeune, je faisais de l'alcool beaucoup, ma mentalité c'était trop infantile, je n'étais pas dans un bon chemin. Et j'avais des ambitions d'être un petit plus que ce que j'étais dans ce moment-là, mais je ne savais pas comment m'en sortir. Et un jour, j'ai pris la décision d'immigrer au Canada. Mais un jour, j'ai dit, OK, je n'ai pas assez d'opportunités ici. Je vais aller ailleurs pour chercher des opportunités.
OK. Puis, je veux rentrer là-dedans parce que dans le fond, c'est le début de mes questions. C'est vraiment ton parcours. Comment tu as choisi le Canada? Comment tu es arrivé à Montréal? C'est quoi le background? Qu'est-ce qui te fait pencher pour une ville francophone en Amérique du Nord plutôt que... Tu pouvais immigrer où tu voulais, j'imagine. En tout cas, tu aurais pu prendre la décision d'aller où tu veux. Comment on choisit de se déraciner pour venir au Canada?
OK. Alors, la première chose que j'ai cherché, c'était l'éducation. J'ai cherché un endroit où je pourrais avoir une bonne éducation et aussi de travail après avoir fini mon école. Je voulais travailler dans une corporation. C'était comme un rêve qui s'est vendu à tous nous. On doit travailler, être partie d'une corporation et un jour faire la retraite. Alors, c'était mon rêve que c'était vendu, bien vendu. Et c'était ça que je cherchais. Alors, j'ai commencé à dire c'est où que je vais étudier. Alors, j'ai regardé premièrement les États-Unis, mais l'éducation aux États-Unis, c'est super cher. J'ai regardé aussi l'Europe, mais en Europe, j'ai senti que c'était comme un petit trop hors de chemin pour moi. Et finalement, j'ai aussi regardé Canada et j'ai dit, OK, le prix à Canada, c'est super bien en comparaison avec les États-Unis. Une fois que j'ai décidé à Canada, à ce moment-là, j'ai fait beaucoup de l'autour. J'ai fait assez de temps dans ma vie, j'ai fait la retraite. Le tour de littérature française. Je lisais des bouquins comme Victor Hugo, Émile Zola et Marcel Proust. Wow. C'était les choses que je lisais en espagnol, mais toujours avec le rêve et l'ambition de pouvoir les lire en français un jour. Alors, j'ai dit, OK, Montréal, c'est une ville qui est bilingue. À ce moment aussi, j'ai commencé à étudier un peu l'anglais. Alors, je voulais apprendre l'anglais, mais j'étais curieux pour le français. Et Montréal, c'était comme l'endroit parfait pour pouvoir parler l'anglais, français et faire des études en finance. C'est ça que je voulais faire. Alors, c'était... Et de plus... J'ai vu un magasin National Geographic dans lequel la ville de Montréal c'était en vedette. Et alors j'ai vu les avenues avec de belles fleurs. C'était des photos de l'été avec des super belles filles aussi. Alors c'était partie de mon inspiration. Alors j'ai dit OK, alors il y a le français. Il y a l'anglais, il y a des éducations qui c'est pas cher, la ville est belle et les filles sont super belles aussi. Et voilà, c'était comme ça que j'ai pris la décision de venir à Montréal.
Je te seconde parce que j'ai voyagé dans quelques endroits dans le monde puis je trouve toujours que les Québécoises sont plus belles qu'ailleurs. Je sais pas si c'est chauffin, mais j'aime les femmes du Québec, donc je te comprends vu de l'extérieur que ça peut être intéressant. Mais ils t'ont pas montré des photos de l'hiver avant de...
Non!
Qu'est-ce que tu penses que Montréal pourrait apprendre maintenant que ça fait quoi, une vingtaine, je dirais 25 ans que tu es ici, 25-30 ans que tu es à Montréal?
22 ans que je suis ici à Montréal.
22 ans, en 22 ans. Qu'est-ce que tu penses que Montréal pourrait apprendre de Barranquilla ou de la Colombie en général? Qu'est-ce qu'on pourrait bénéficier?
Quand je suis arrivé ici, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'intégrer. Je sentais que c'était difficile de m'intégrer dans une communauté francophone. J'allais à l'université Concordia en anglais, mais en même temps, je faisais des études en français aussi. Je prenais chaque session deux cours de français. C'était français littérature, grammaire, je ne sais pas, de toutes sortes de cours. Et je trouvais que c'était difficile de m'intégrer. Je savais comment faire ça. Et finalement, je m'intégrais à la culture francophone à travers de la danse. Quand j'ai commencé à danser, alors j'ai rencontré des filles québécoises qui m'ont intégré. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre? Peut-être être un petit plus ouvert à des immigrants. Je sais que, à comparaison avec des autres sociétés, le Québec c'est très ouvert, mais il y a encore un petit plus de chemin à faire.
Puis si je te pose la question inverse maintenant, qu'est-ce que Barranquilla pourrait apprendre de Montréal?
Montréal, le Québec, le Canada, c'est un endroit beaucoup plus riche que que mon pays natal, la Colombie. Alors, dans mon pays, il y a encore du crime, et peut-être beaucoup, c'est dangereux. Alors, on pourrait, je ne sais pas quoi, il y a une richesse ici culturelle et économique aussi. D'une façon ou autre, si on pourrait en Colombie apprendre pour arriver à une échelle plus haut économiquement, ça serait quelque chose qu'on pourrait apprendre de Québec.
Puis quand tu retournes chez toi à Barranquilla, c'est quoi la première chose que tu fais quand tu sors de l'avion ou que tu penses dans l'avion, tu dis « je vais manger ça » ou « je vais aller à tel endroit »
Mais quand je vais à mon pays, je vais toujours quand on est en hiver ici. Alors, c'était toujours janvier plutôt. Alors, juste le fait d'être là avec la chaleur, c'est quelque chose de super. Et puis, de plus, les gens sont accueillants et on est d'une soirée ou un souper à l'autre, d'une réunion à l'autre. Alors, je me sens très bien quand je suis là, mais les choses que j'apprécie le plus, c'est la chaleur. La chaleur, pas seulement humaine, mais aussi de la température. C'est comme je rêve à sortir d'ici pendant l'hiver. Et puis, quand je fais ça en Colombie, ça me fait sentir très bien.
Je vais faire un petit segue vers ton début de carrière. J'ai écouté ton parcours. Je trouve ça vraiment intéressant, le fait que tu es immigré ici. Contrairement à tous les autres étudiants, tu travaillais de soir, t'enregistrais avec ton Walkman tes professeurs, puis tu réécoutais tes cours le soir pour passer tes examens comme janitor, que tu as réussi à sortir de l'école, de payer toi-même tes études. Ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Et comme tu nous as parlé, ton rêve, c'était de travailler pour The Big Man, la corporation, et tu as commencé comme planificateur financier pour une corporation. Puis tu t'es rendu compte que tu faisais ça pour aider les gens à devenir riches, mais qu'au final, ils te faisaient vendre des produits qui te rendaient toi et la compagnie riche sans nécessairement penser au bien commun ou au bien de tes clients, ce qui est très bienveillant. Et tu as décidé après ça de partir de là parce que tu n'étais simplement pas heureux. Fait que ce que j'aime premièrement, c'est que tu es parti de ne pas être heureux. Maintenant, de ton background de financier, qui sait que les produits financiers, c'est souvent pour enrichir la compagnie financière et non pour enrichir leurs clients. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil à quelqu'un comme moi qui commence, tu sais, j'ai l'objectif d'être indépendant financier à 50 ans, j'écoute plein de podcasts, je suis Todd Dressader, plein d'influenceurs américains. Tout le monde dit de ne pas comme payer des frais de fou à des compagnies pour investir, mais il y a comme personne qui donne un point de départ. Qu'est-ce que je fais? Là? Moi, je ne connais rien. Est-ce que je m'ouvre un compte en trading? Comment C'est quoi le point de départ pour quelqu'un qui veut investir sans se ruiner d'une compagnie de finances?
Wow, OK. On commence un peu de... Une fois que je suis arrivé ici, comme tu viens de dire, je suis venu ici pour assez de l'argent pour survivre les premières années. Ma famille m'a aidé, mais je savais que c'était juste pour une année. Je n'avais pas de l'argent pour 4 ans d'université. Alors, à ce moment-là, que sont les... et je n'avais pas le droit de travailler non plus. Comme étudiante internationale, c'est illégal de travailler. Alors, j'ai trouvé un travail sur la table, c'était comme janitor. Et voilà, ce qui rend ça possible, c'est qu'ici à Québec, les études ne sont pas chères. Une année d'universitaire aux États-Unis, ça coûte plus de 20 000 dollars américains. Ici, à Québec, un Québécois peut payer juste 3 000 dollars canadiens pour une année. Alors, c'est vraiment possible de travailler comme un serveur, par exemple, un janitor, je ne sais pas quoi, et être capable de payer ces études. Alors, c'est une des choses que j'ai apprécié le plus de ce gouvernement ici. OK, une fois que j'ai fini les études, je voulais travailler comme conseiller financier. Je voulais devenir riche parce que j'ai vu des films comme Wall Street et des choses autres. Alors, j'étais influencé et j'ai essayé vraiment fort de trouver un travail. Et finalement, j'ai trouvé un travail comme conseiller financier. Et le travail, c'était ça, de vendre des produits financiers à mes amis et à ma famille. Sauf que tous ces produits financiers que j'étais en train de vendre, ce n'étaient pas des produits financiers avantageux à mes clients. Ce sont des produits financiers avec les frais de service soit cachés plutôt cachés, et que c'était énorme. Alors, la plupart des gens qui achètent des produits financiers d'un conseiller à commission, comme c'était moi, la possibilité de gagner de l'argent avec ces sortes de produits-là sont très minimum. Alors, ce sont les sortes de produits qui sont vendus par toutes les institutions financières. Toutes les cinq banques ici vendent toutes sortes de produits avec des frais financiers élevés. Et bien sûr, le plus qu'on vend, le plus que nous, on gagne de l'argent, mais pas nécessairement ça à notre client. Alors, c'était une grande désillusion. Et la raison pour laquelle toi, comme client, n'entends pas de c'est quoi les produits financiers qui sont idéaux pour toi, c'est parce que les produits financiers qui sont pas bons, qui sont bons pour toi, ne offre pas beaucoup de commissions. Alors, si il n'y a pas beaucoup de commissions, les conseillers financiers ne vont pas te l'offrir. OK? Alors, il y a ici quelque chose un peu bizarre. Disons que tu as besoin d'un plombier, OK? Parce que quelque chose ne marche pas bien dans ta maison. Alors, le plombier va te demander de l'argent à l'heure. Il va dire, OK, je peux aller chez toi, je peux arranger ta toilette, je ne sais pas quoi, et ça coûte 50 dollars l'heure. OK? Mais dans les conseils financiers, on te demande d'accord à ta quantité d'argent. OK? Alors, si tu as 100 dollars, ça te coûte quelque chose, si tu as 1 million de dollars, ça te coûte beaucoup plus. Alors, c'est un pourcentage de tes biens.
Ouais.
Alors que ça n'existe pas dans aucune autre profession. Tu ne veux pas aller au mécanicien et le mécanicien va te demander pour régler ta voiture un pourcentage de ta fortune. Il va te demander 50 dollars l'heure ou 20 dollars l'heure ou n'importe quoi. Mais dans les services financiers, c'est ça. Si tu es riche, on va te demander beaucoup plus que si tu es pauvre pour exactement les mêmes services. Alors, il y a des produits financiers dans lesquels les frais sont minimes. Pour ça, il faut être un peu informé. Mais une fois qu'on est informé, alors c'est ça qu'il faut acheter, les produits financiers J'ai écrit sur ça sur mon blog, et qui sont 10 fois moins chers, ou 20 fois, ou des fois 100 fois moins chers que les produits financiers offerts à la banque ou par des autres conseillers financiers qui te donnent beaucoup plus de rendement comme investisseur. Mais pour arriver à ça, pour savoir ce sont quoi les produits financiers qui sont bons pour toi dans ce cas-là, il faut s'informer. Alors, acheter quelques livres, peut-être lire quelques blogs de personnes qui ne sont pas sous commission. Parce qu'une fois que tu parles avec une personne qui dépend d'une commission pour parler avec toi, tu peux être sûr que l'information qu'il va te donner, il ou elle va te donner, c'est pas vraiment la meilleure information pour toi.
Ça, c'est en plein ce que mes recherches m'ont amené. En gros, on passe sur ton blog, on va aller voir ton article des produits financiers moins chers. Puis des fois, ça a de l'air nono parce qu'ils cachent, tu sais, ils vont cacher un 5 % par année. Puis le monde dit « Ah ouais, ben c'est 5 %, ils ne voient pas la quantité. » Mais toi, tu es dans les services financiers, la règle du 72, tu prends 72, tu le divises par 5, ça fait 12 fois, 13 fois, mettons, 14 fois. Grosso modo, dans 14 ans, tu doubles ton argent. Fait que si tu places ton argent pour 30 ans puis qu'il te cache 5 %, tu vas avoir 3 fois moins d'argent à la fin de l'année parce qu'ils vont avoir pris 2 fois, comme tu vas avoir doublé ton argent 3 fois, mais ils vont en avoir pris 2 en commission. Fait que c'est très important de regarder ces frais-là. J'en suis conscient, j'ai juste pas trouvé de bons produits. Fait que je vais linker sur ton blog. Je l'ai vu passer en plus l'article. Je pense que je l'ai pas lu, mais je l'ai vu passer. Fait que je vais linker sur ton blog si ça intéresse les gens. Je sais aussi que je vais en profiter pour te plugger. Je sais pas si tu le fais encore. Tu offrais tes services comme à tarif unique à l'heure aux gens qui ont peut-être besoin de conseils. Est-ce que tu offres toujours ça?
J'ai fait ça, mais j'ai trouvé. C'est plus facile de vendre un produit de consommation qu'un produit qui te offre l'opportunité d'épargner de l'argent. Alors, par exemple, j'ai eu un service de photographe, OK? Pour moi, de vendre une session de photographie de 1 000 $, c'était super facile. Pour moi, de convaincre à quelqu'un d'épargner 1 000 $ comme un fonds pour émergence, urgence, comme maintenant qu'on a, c'était super, super difficile. Alors, j'ai fait des conseils financiers et des consultations pendant presque 10 ans. J'ai fait ça, mais j'ai trouvé que c'était trop difficile de vendre l'idée à des personnes pour épargner, pour faire la planification financière, pour prendre soin de soi. Vraiment, j'ai trouvé ça un défi. Après 10 ans, plus ou moins, j'ai dit, OK, j'arrête de faire ça. En fait, si un ami, n'importe qui, me demande est-ce qu'on peut parler de ce plasma, qu'est-ce que tu penses de ça ici, ça me ferait du plaisir, mais c'est pas quelque chose que j'ai off. Maintenant, j'ai off des autres choses. Les gens sont plus attirés à faire de la consommation que de faire des épargnes.
Parce que théoriquement, ce qu'on voudrait, ce qu'on devrait tous vouloir, ce que je comprends de mes recherches, c'est de trouver quelqu'un comme toi qui est bienveillant, qui n'a aucun avantage à ce que je prenne produit A ou produit B, qui va avoir avantage à ce que je prenne la bonne décision. On devrait tous vouloir ça, mais je comprends que c'est difficile à vendre parce que les gens ne veulent pas s'informer, ne veulent pas prendre le temps. Il y a mieux le beau-frère qui arrive, qui travaille chez Desjardins, qui dit « signe là, mets-moi 1 000 $ par mois », puis ils te montrent un beau graphique, puis ils te montrent que dans 50 ans, ça va valoir 1 000 000. Tu sais, that's it, après c'est plus grave, c'est beaucoup plus facile d'acheter ça que de dire « je vais investir dans l'éducation, apprendre à… » commencer à regarder. Fait que je comprends parfaitement ton point de vue, mais je pense qu'on gagnerait tous à avoir quelqu'un d'indépendant qui n'a pas d'avantage. Si toi, dans le fond, tu n'as aucun avantage que je jette de telle place ou que je décide de placer en bourse ou que je mette ça d'un compte d'épargne, tu sais, comme toi, tu n'en prends aucun avantage, mais tu as l'avantage, si tu me conseilles bien, c'est un gros avantage pour moi.
Une des choses que maintenant on vient de réaliser, par exemple, on est dans une situation que dans lequel beaucoup de gens ont perdu leur travail, mm-hmm. ok, à cause de coronavirus et puis on se trouve sans aucun argent. Il y a maintenant beaucoup de gens qui ont plein de difficultés. Alors, un de mes conseils principaux, aussitôt que j'ai embarqué avec un client, c'était « Ok, on va mettre à côté au moins 3 mois de dépenses personnelles à côté pour une urgence. » Quelle urgence? On ne sait pas. C'est pour ça que ça s'appelle une urgence, parce qu'on ne sait pas de où est-ce que ça va venir. Et bien sûr, on a eu une période dans laquelle la bourse et l'économie marchaient bien. Alors, c'était difficile à imaginer quelque chose comme la vie actuelle qu'on vit aujourd'hui, dans laquelle, je ne sais pas, je dirais plus de 50% des travailleurs ont perdu les revenus. Et à ce moment-là, avoir à côté 3 mois de dépenses, waouh, ça serait idéal. Mais beaucoup de gens ne sont pas là.
Et c'est sûr, comme ben, la majorité ont 3 ans de retard. ils n'ont pas 3 mois d'avance, ils ont 3 ans de retard. Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'indépendance financière?
Disons que tu calcules tes dépenses. Disons que tes dépenses sont 2 000 $ par mois, OK? Alors, avoir assez de revenus pour couvrir ces 2 000 $. Alors, la façon qu'on calcule ça, il y a une formule très facile. Disons, OK, 2 000 $ par mois, c'est 24 000 $ par année. Si tu multiplies 24 000 $ par année fois 25, et puis on investit ça dans des produits financiers qui n'ont pas de gros frais de gestion, alors on a assez pour vivre le reste de notre vie sans travailler. Alors, c'est ça une façon de le voir. Une autre façon de le voir, disons, c'est avoir, disons, la moitié de ça. Disons, tu prends ton 24 000, le multiplies par, disons, 12, alors c'est la moitié, et tu te trouves un travail temps partiel que tu aimes faire. C'est pas, alors, disons que tu pourrais gagner des revenus comme podcaster et que ça te donne, disons, 1 000 $ par mois plus un autre 1 000 $ que tu génères à cause de tes placements. Alors, c'est une autre sorte de sécurité financière, d'avoir pas besoin de travailler pour une corporation pour vivre ta vie.
Il y a un raccourci dans le fond là, qui est comme facile, c'est 300 fois ton revenu mensuel. Okay. Si tu dis 2000 fois 300, dans le fond, c'est entre 300 et 400, là, ça dépend du calcul que tu utilises.
Oui.
Mais dans le fond, c'est 25 fois 12, ça fait 300, donc c'est exactement le même chiffre, mais c'est plus vite à calculer. T'sais. Fait que 2000, ça te prend 600 000.
Oui.
Si tu en veux à moitié, c'est 300 000. Ce que je voulais apporter là-dedans, c'est que beaucoup de personnes pensent à indépendance financière, à je vais aller rien faire, à jouer au golf, à écouter la télé, peu importe ce que tu penses, quand dans le fond, les gens qui réussissent à être indépendants financiers, puis tu as nommé un bon point, puis c'était là-dessus que je voulais amener, c'est de prendre le temps de travailler dans ce que tu aimes et non être obligé de faire ce que tu veux. Puis c'est un peu ça que je voulais que tu me parles. Qu'est-ce que ça représente pour toi maintenant que tu as un petit peu d'argent en avance, que tu peux te permettre de choisir tes jobs? Comment tu te sens là-dedans? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que ça représente au niveau personnel?
Les gens qui peuvent faire dire « OK, j'ai arrivé à faire ma retraite et je ne vais rien faire autre que de boire des margaritas », ce ne sont pas beaucoup de gens qui font ça en réalité. Les gens ont besoin de faire quelque chose pour contribuer à la société et à aider je ne sais pas quoi. Alors pour moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'écrire dans mon blog, de faire du podcast. On ne gagne pas de l'argent avec le podcast, mais regarde qu'est-ce que ça arrive, Francis. J'arrive à avoir des conversations avec les gens que j'admire. Et ça arrive toutes les semaines, j'ai des conversations avec les écrivains, avec les politiciens, avec toutes sortes d'influenceurs, des personnes avec lesquelles, waouh, si je pourrais avoir une conversation avec ces personnes-là, je serais tellement content. Alors, c'est ça qui m'arrive toutes les semaines, des fois, deux, trois fois par semaine, d'avoir des conversations avec les gens que j'admire. Alors, c'est ça. Et aussi, l'écriture, c'est comme un exercice mental incroyable. C'est comme faire la musculation, mais cinq fois encore plus puissant. On découvre, ce que je trouve dommage quand j'ai fait la lecture, c'est que le plus que je lis, le plus que je trouve que je ne sais rien. Je me sens de plus en plus ignorant chaque fois que j'ai fini un nouveau livre. Alors c'est un peu frustrant parce qu'on peut voir qu'il y a un vaste univers de connaissances devant nous et qu'on ne pourrait jamais l'atteindre. Mais écoute, chaque fois qu'on fait un petit pas, chaque nouvelle page d'un livre que je lis, c'est comme avoir les yeux de plus en plus ouverts, sortir de la cave et entrer dans la nature et pouvoir voir les couleurs, les paysages, les animaux et les fleurs. Alors, c'est ça, la lecture, l'écriture et avoir des conversations comme maintenant avec toi, c'est super enrichissant. C'est un me motive tous les jours de pouvoir être partie de notre environnement humain et pouvoir compartir avec les gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi.
Je m'en allais un petit peu avec ça, dans le fond, sur comment on arrive à être indépendant financier. Là, tu pourras me corriger, c'est un peu ma vision. C'est on a des revenus, on a des dépenses. Je pense que c'est comme ça dans toute la vie. Plus qu'on réussit à baisser nos dépenses et augmenter nos revenus, ça nous crée un gap. Puis lui, on peut l'investir. Fait que comme je parlais, mettons, du 300 fois nos revenus, mais c'est sûr, si tu dépenses 10 000 par mois, c'est beaucoup plus dur parce que ça te prend 3 millions pour arriver à être indépendant financier. Puis si tu dépenses 10 000 pour mettre 3 millions de côté, bien, il faut que tu gagnes comme 30 000 par mois. Donc, c'est beaucoup plus dur de gagner ça. Une des façons de raccourcir ça, c'est d'aller vers le chemin de la frugalité. Plusieurs indépendants de fortune, c'est ce qu'ils choisissent, dont toi. Pour moi, c'est comme la chose la plus difficile parce qu'on est d'un monde bombardé d'informations, de facilités, de crédits, d'objets brillants, de restaurants, de services, de tout. J'aimerais que tu me parles de comment tu réussis à être frugal. As-tu des trucs que tu peux nous donner? Comment on fait pour passer? Tu sais, justement, toi, tu rêvais d'être riche. Là, tu es arrivé, tu as eu le corporate world, puis maintenant, tu es passé à quelqu'un qui est, on va dire ici, simplicité volontaire, qui a un niveau de vie frugal, puis j'admire ça. Fait, est-ce que tu as des trucs à nous donner ou comment qu'on fait pour vivre? Parce qu'on devient marginal. Tout le monde veut la nouvelle Ferrari. Puis toi, tu dis, tu sais quoi, ma vieille voiture, elle me convient. Tu sais, tu n'es plus dans la même gang. Comment on fait pour faire le switch?
OK, alors, il faut créer un gap. Alors, il faut gagner assez de l'argent et dépenser le moins possible. OK, on prend, par exemple, les téléphones cellulaires, par exemple. OK, tu as deux options. Tu peux acheter le dernier, je ne sais pas, iPhone ou Samsung qui coûte maintenant plus de 1000 dollars chacun. Ou tu peux acheter un qui coûte, je ne sais pas, 100-200 dollars. OK? À fin de compte, les deux font des appels, les deux font des textos, les deux font Facebook. Alors, qu'est-ce que tu achètes? Tu achètes du branding. OK? Tu achètes que les autres personnes autour de toi remarquent que tu as un téléphone, tu as le dernier modèle, disons, celui-là qui coûte les 2000 dollars quelque chose, OK? Alors, tu ne veux pas dire, oh, ici, ma nouvel téléphone qui coûtait plus de 1000 dollars, mais tu laisses faire qu'il remarque ça. Dans le domaine des animaux, il y a les oiseaux. Alors, les oiseaux, ce qui va attirer les femmes, c'est celui qui a les plumes avec les plus de couleurs. Et maintenant, c'est laisser ces plumes-là, ce sont nos téléphones, nos voitures, les maisons, les vêtements qu'on utilise, ce sont nos plumes qu'on utilise pour montrer à les autres gens que, oh oui, j'ai des moyens, ok? Mais on utilise ça, on montre qu'on a des moyens, mais les gens ne peuvent pas voir exactement qu'est-ce qu'il y a dans notre compte de banque. Alors, on veut donner l'impression d'être à l'aise. Et voilà. Alors, moi, j'ai un vélo. j'ai une voiture aussi que je suis en train de vendre, mais ma moyen favori de transportation, c'est mon vélo. Alors, mon vélo, ça me coûte, je ne sais pas, $100 par année pour maintenir au point versus ma voiture qui est entre gasoline et assurance et tout ça, c'est beaucoup plus allá. Alors, voilà une autre disparité. Si tu utilises un téléphone de $100 et un autre de $1000, ta vie n'a rien changé, pas du tout. Si tu as un jean que tu as acheté à Walmart versus un jean que tu as acheté à La Baie, je ne sais pas c'est où que on achète des blue jeans qui sont chers, pour toi, ça ne change rien. Tu veux simplement donner une impression que tu as plus que toi et ça coûte cher. Si on fait ça tous les jours de notre vie, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup d'argent dans nos comptes de banque, alors on ne peut pas épargner pour faire une retraite ou pour aller en voyage ou je ne sais pas quoi. Mais ce sont des petits changements comme ça que si on est conscient de ça tous les jours de notre vie, en fin de compte, ça fait un grand changement.
Mais c'est de changer de mindset, c'est ça qui est difficile, je pense, parce qu'on se fait bombarder d'informations, on se fait bombarder. Tu veux être l'oiseau avec les plus belles plumes. Donc, bravo de réussir à garder le cap dans cette société qui nous bombarde. Je trouve ça vraiment cool. Je voulais faire un petit segue vers ta vie entrepreneuriale. Je vais commencer par t'introduire. En fait, tu as commencé comme conseiller financier. On a dit que tu n'aimais pas ça. Quand tu étais à l'école, tu as commencé à donner des cours de danse comme de façon un peu sans slide, comme on dirait au Québec. Et vu que tu ne travaillais plus, tu donnais de plus en plus de cours de danse. Et là, tu t'es dit, il faut que je me trouve un job, jusqu'au temps que tu as réalisé que tu n'avais pas le temps de te trouver un job parce que tu donnais trop de cours de danse. Puis tu as aussi réalisé que tu étais heureux puis que tu avais assez d'argent pour vivre avec ça. Fait que ça, c'est un peu ton début en entrepreneuriat. J'aimerais que tu nous parles un peu de ta vision de tout ce que tu as fait, si ça te tente de nous parler de ta vie d'entrepreneur par la suite du monde corporatif.
OK. Alors, quand on travaille pour soi-même, on a contrôle pas seulement de notre revenu, mais aussi de notre horaire. Et alors, j'ai quitté mon travail comme conseiller financier. Et quand j'étais à l'université, la danse était un de mes hobbies. Et des fois, il y avait des gens qui me demandaient, je te paye si tu me montres comment faire ça ou l'autre chose. Une fois que je n'avais pas plus de travail, j'ai dit, OK, je vais faire quelques cours de danse jusqu'à le moment que je trouve un autre travail. Alors, j'ai mis des annonces partout à l'université. J'ai mis dans les journaux locaux. Et bientôt, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de clients tous les jours. Et alors, j'ai dit, waouh, c'est bien. Je n'ai pas de boss. Je danse avec les belles filles tous les jours et je suis payé pour ça. Alors, j'ai dit, OK, ça va être le chemin que je vais prendre. Plus tard, une ou deux années plus tard, j'ai trouvé une femme avec laquelle j'ai fait un partenariat et entre les deux, on a ouvert une école de danse. Alors, la danse, la plupart des artistes, comme des danseurs ou des profs de danse comme moi, on gagne pas beaucoup d'argent. Mais je pense que c'est parce qu'on planifie bien les choses. Dans notre cas, on a commencé à travailler ensemble et on faisait 3 cours de danse par semaine, et par jour. Okay? Dans ces 3 cours, on avait plus ou moins 20 étudiants par cours. Et chaque étudiant payait entre 10 et 15 dollars. Alors, chaque heure qu'on faisait, on gagnait plus de 200 dollars à l'heure, ma partenaire et moi ensemble. Et on faisait ça 6 jours par semaine. Alors, d'un moment ou autre, le cash est commencé à arriver très, très vite. Et de plus, on a commencé à faire des événements. On engageait des concurrents ou des professionnels de danse pour venir chez nous à donner. Alors, ça nous a fait encore plus de publicité. Et maintenant, on a, de plus de notre cours de danse, on avait des soirées de danse. Chaque soirée de danse donnait plus ou moins 1000 dollars par soirée. Alors, dans une période de, disons, 6-7 ans, on travaillait fort, mais on a arrivé à amasser une bonne quantité d'argent. Alors, c'est ça qui arrive quand tu es ton propre patron. C'est si tu organises tes affaires. Alors, on parle de domaines dans lesquels on pense qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent. C'est vrai, on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais si on organise ça d'une façon, ça pourrait être rentable. Alors, dans quelques années, on a accumulé un bon montant d'argent qu'on a dit, wow, on peut maintenant utiliser cet argent-là et diversifier et entrer dans des autres domaines. Alors, c'était le début, la carrière comme danseur. Après ça, j'ai dit, OK, je vais aussi faire de l'immobilier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un peu de cet argent-là et j'ai commencé à acheter des appartements et les louer sur la plateforme Airbnb. Alors, à un moment donné, j'ai eu 5 appartements. Alors, quand je loue un appartement à une personne, disons, un citoyen normal, le loyer que je demande, c'est 1000, 1200, quelque chose comme ça. Quand j'ai loué ce même appartement sur la plateforme Airbnb, j'ai recevé entre 3000 et 6000 dollars par mois. Alors, la différence est énorme. J'ai fait ça aussi environ 6-7 années. Et voilà, alors maintenant, c'était l'accumulation de mes années de danse, l'accumulation de mes années de... Et après ça, je me suis fatigué d'être host de Airbnb et j'ai commencé à vendre mes appartements. Maintenant, il me reste un que c'est à vendre présentement. Mais aussi, OK, ça a accumulé un grand capital. C'est maintenant que c'est aussi investi dans la bourse. Et bien sûr, dernièrement, avec le coronavirus, on vient d'avoir la bourse est tombée. Mais j'ai eu plus de 10 ans d'accumulation. Chaque année, en fait, l'année passée, c'était 20% de rendement. 2 années plus tôt, c'était presque 30 dollars de rendement. Et cette année, qu'on considère une mauvaise année, la baisse, c'est juste environ 15%. Alors, ce n'est pas une grosse baisse à comparaison à comment ça a monté depuis les derniers 10-11 ans. Voilà, c'était plus ou moins mon enchaînement. J'ai créer des entreprises, la danse, que c'est très, très improbable, et aussi location des appartements sur la plateforme Airbnb. N'importe qui pouvait faire ça, n'importe qui pouvait prendre un appartement et le sous-louer. Et en fait, on a eu des problèmes dans nos sociétés à cause de les personnes comme moi qui a pris des appartements et ne les louait pas à des citoyens, mais à des touristes. Oui, je suis conscient de ça. Mais en tout cas, c'était une initiative, on voit une opportunité et on se lance dans cette opportunité-là. On dit, oh, OK, je vais essayer. De plus, aussi, j'ai essayé des choses qui n'ont pas marché. Et comme je voulais être conseiller financier et ça n'a pas vraiment marché bien, mais écoute, on essayait. Il y a des autres choses que J'arrive à oublier très facilement mes défaites et toujours me rappeler des choses qui ont réussi.
J'aimerais justement, en parlant d'oublier les défaites, y en a-tu une que tu te souviens que tu pourrais nous raconter en tant qu'entrepreneur?
Mais celle qui m'a dérangé le plus, c'était que je voulais être conseiller financier. Mais ça n'a pas marché vraiment. J'ai trouvé ça difficile. J'ai essayé pendant des années de pouvoir approcher les gens et leur dire, écoute, on va investir ton argent de cette façon ou l'autre. J'ai trouvé des clients. Présentement, j'ai deux, trois clients avec lesquels j'ai des relations. Mais c'était un rêve à moi que je voulais avoir depuis mon arrivée ici à Canada. Et ça n'a jamais marché. Alors, c'est un peu pénible parce que je voulais vraiment aider les gens à faire plus d'argent. Et puis, il faut avoir comme une machine de marketing très puissante. Et il faut dévouer plus de temps à du marketing que dans le travail en fait. Et puis, il y a ce thème de fait.
Dans le fond, ce que tu trouvais difficile, c'est de ne pas avoir réussi à montrer la valeur ou montrer le pourquoi. Tu sais, c'est comme vous faites tout voler à gauche, à droite, il y a d'autres alternatives, puis personne ne t'a suivi là-dedans. T'es comme un peu un révolutionnaire. Ta défaite, c'est d'être le révolutionnaire que personne n'a suivi. T'étais juste seul de ton bord. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu commences là-dedans? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de commencer justement dans ce chemin-là?
Présentement, je vois des autres personnes qui vont offrir des services de coaching dans plusieurs domaines, pas seulement dans le côté financier, mais aussi dans le domaine de croissance personnelle ou de croissance professionnelle. Et c'est une idée très difficile à vendre. Par exemple, on a beaucoup d'admiration sur Tony Robbins. Okay? Ouais. OK? Tony Robbins, lui, il est excellent dans son domaine d'orateur et de coach. Mais ce qu'il fait tellement bien pour lui, c'est qu'il est un super bon avec le marketing. OK? Alors, ce qu'il fait, c'est extraordinaire, mais son marketing, sa machine de marketing est super génial. Alors, Tony Robbins, sans sa machine de marketing, sera un autre inconnu.
C'est clair.
Et je connais, parce que maintenant, j'ai fait des sites internet pour les gens, et je connais des gens qui ont l'ambition de se lancer comme coach. Coach de vie, coach d'une autre chose. Et je n'ai pas le cœur de dire, écoute, c'est super difficile et c'est 90% possible que tu ne vas pas jamais réussir parce que les connaissances de marketing ne sont pas là. Et même s'ils sont là, l'énergie de faire du marketing chaque jour et de dévouer 90% de son énergie à du marketing et juste 10% à le travail qu'on peut faire, c'est difficile. Alors, dans mon cas, comme conseiller financier, j'aurais aimé que quelqu'un me fasse voir ça, que c'était un travail d'être un bon marketer plutôt que d'être un bon conseiller financier.
Oui, définitivement. Puis, tu sais, on parlait des frais élevés des produits financiers. Eux, c'est parce qu'ils l'ont compris. Donc, ils investissent l'argent dans le marketing. Tu sais, c'est pas pour rien que tu as des frais élevés. C'est parce que ça prend un bon marketing. Après, ça prend un bon sales force. Puis, pour avoir un bon sales force, il faut t'y payer. Donc, ça s'additionne un par-dessus l'autre. Puis, à qui qu'il passe, c'est comme on parlait du téléphone, c'est du branding, bien, il passe ça au client. Il cache les frais pour vendre un produit qui est plate de façon sexy. Puis le gros des frais vont là. Tu sais, c'est le vendeur, la publicité, tout ce qui est alentour. Tu sais, quand tu vois des banques qui ont des bâtisses que personne ne peut s'acheter. À quelque part, c'est toi qui payes pour ça. C'est tes frais de service, c'est tes frais, c'est toi qui payes pour ça. C'est pas eux qui ont pris des décisions avec leur argent personnel, là. C'est vraiment toi. Fait que, ouais, très bon conseil. Fait que le marketing, plus important que le produit ou le service qu'on offre, c'est ce que tu t'en retiens de ça. Tu sais que j'aime ton podcast, je veux savoir comment tu as eu l'idée de partir le Alain Guillot podcast?
OK, alors j'étais toujours... j'ai utilisé le podcast pour me motiver quand j'étais au début des différents chemins comme entrepreneur. Et c'était comme m'accompagner tous les jours. N'importe quoi que je faisais, j'écoutais toujours un podcast qui me donnait toujours soit des nouvelles idées ou des motivations. Et un jour, j'ai dit pourquoi pas moi? Et j'ai décidé de le faire. Et toujours, mon insécurité, c'est comme tu peux le voir, j'ai un accent latino et c'est le même en anglais aussi, peut-être moins remarquable qu'en français. Mais alors, j'ai eu toujours une sorte d'insécurité dedans. Mais en même temps, j'ai dit, OK, quand même, je vais essayer. Et puis, si personne ne l'aime pas, au moins, c'est un bon exercice d'apprentissage pour moi, une autre façon de m'améliorer. Et voilà, j'ai démarré ça. C'était difficile pour moi à croire qu'il y avait des gens qui acceptaient de venir dans mon podcast. Et oui, j'ai trouvé ça incroyable. Mais voilà, j'ai commencé à approcher des écrivains et des artistes et des personnes que j'ai admirées. Et ils ont dit oui. Et j'étais, waouh, c'est vrai. C'était difficile à croire, mais ça arrivait. Et maintenant, je continue encore à faire la recherche, d'approcher les gens. Et il y a les gens qui continuent à dire oui. Et voilà, on fait ça. C'est une grande stimulation mentale, un bon bénéfice social. Même si je n'ai pas de contact physique, je sens qu'il y a une connexion humaine avec les personnes avec lesquelles j'ai des podcasts.
Puis en plus, tu es rendu à 133. C'est un show hebdomadaire, donc à toutes les semaines. Ça fait comme plus de 2 ans que sans relâche, tu les sors. Et c'est tellement beau. Tu sais, tu dis que c'était ton insécurité. Je vais parler pour moi. C'est une des choses que j'aime justement de ton podcast, c'est que t'avais une bonne raison de dire « je le ferai pas » ou d'avoir peur de pas commencer. Puis tu le fais à toutes les semaines et ton contenu est super bon. Malgré que tu as un accent. T'sais. Donc, c'est vraiment cool parce qu'il y a tellement de gens qui vont s'empêcher de créer du contenu parce qu'ils n'aiment pas comment ils parlent, parce qu'ils n'aiment pas de quoi qu'ils ont de l'air ou plein d'histoires. Toi, tu l'as juste fait puis tu es de meilleur en meilleur. On voit que tu fais des efforts, tu vas au Toastmaster, tu fais des vidéos, tu es comme vraiment sur une lancée. Si quelqu'un aimerait lancer un podcast, qu'est-ce que tu lui dis?
OK. Alors, la première chose, c'est de trouver un sujet dans lequel on est vraiment passionné. C'est ça le plus important parce que c'est ça que quand on est démotivé ou fatigué ou quand on a des réactions, c'est ça qui donne de l'énergie d'essayer une fois de plus. Quand on a décidé de faire un podcast par semaine et ça, tout à coup, ça arrive le fin de semaine et on n'a pas encore le fait. Il faut avoir cette motivation, il faut dire, OK, je me promets que je faisais un podcast par semaine et à cause que j'aime ce sujet-là, je vais le faire quand même. Alors, si tu commences à faire un podcast sur un sujet que tu penses que, je ne sais pas, va te donner soit de l'argent, disons que c'est une autre motivation, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'argent dans le podcast, mais ça n'arrive pas tout de suite. Ça arrive peut-être très loin dans le chemin. Alors, au début, il faut avoir la motivation qu'on aime ça, le sujet. Par exemple, tu as un podcast de coureur et c'est Parce que tu aimes ça courir. Et moi, si tu aimes la bière, par exemple, alors tu ne ferais pas un podcast sur être un coureur, tu ferais un podcast sur la bière. Alors, c'est ça la première chose, c'est faire un podcast sur un sujet qu'on aime et puis savoir que ça prend du temps. Alors, si tu te donnes une demi-heure par semaine, ça va pas marcher. Et il faut que tu te donnes, je ne sais pas, quelques heures.
Puis, combien de temps ça te prend faire un épisode de podcast? Là, on est rendu au 130e plus, là, 133e. Entre le temps que tu choisis ton invité, que tu le contactes, que tu as l'enregistrement, que tu fais ton édition, que tu le mets en ligne, que tu écris tes show notes?
Alors, mon podcast, ce sont des entrevues. Alors, la première chose, c'est de trouver quelqu'un d'intéressant. Alors, pour arriver à trouver quelqu'un d'intéressant, il faut avoir les oreilles ouvertes 24 heures par jour. OK? Parce que ce n'est pas juste avant de décider de faire un podcast qu'on va trouver une personne intéressante. Il faut être ouvert et alerte tout le temps. OK? Alors, dans ce cas-là, ça prend 24 heures par jour, 7 jours à la semaine. Mais disons que dans ton recherche, tu as trouvé quelqu'un. Alors, maintenant que j'ai trouvé quelqu'un, ça prend quelques courriels électroniques, quelques emails. Hey, est-ce que tu aimerais faire un podcast? Oui, non, à quelle heure? Alors, ça prend peut-être quelques emails, quelques sédutants. Une fois que la personne a dit oui, ça prend la recherche. Alors, dans mon cas, j'ai fait des interviews avec des personnes qui sont des écrivains plutôt. Alors, qu'est-ce que ça prend? Ça prend lire les livres, OK, qui sont écrits. Alors, je lis plus ou moins un livre par semaine. Si on considère la quantité de sorts là, ce sont beaucoup. OK, alors, une fois que j'ai lu les derniers livres qui sont publiés ou ce qu'ils vont publier dans l'avenir, maintenant, faire la recherche des autres choses de leur vie. Par exemple, j'ai vu que tu as fait beaucoup de recherches pour cet épisode-là et je ne sais pas combien de temps ça t'a pris, mais je suis vraiment impressionné. Alors, faire la recherche et puis, bien sûr, la date arrive, on a la conversation, il faut bien sûr être sûr que l'équipement va travailler bien. Et on enregistre ça. Et puis, l'édition, c'est la partie que j'aime le moins parce que j'essaie d'enlever les amps, c'est tout ça de le podcast, surtout sur mon invité parce que je veux que mon invité se sent très fier de son podcast avec moi et qu'il le partage avec ses amis. Après ça, la publication et après la publication, faire du marketing de l'épisode, alors de le mettre sur les réseaux sociaux. En tout cas, minimum 10 heures entre, oui, disons 12-10 heures de travail.
Oui, définitivement. C'est environ ce que ça me prend, un long format, moi aussi. C'est l'autre fois, j'en parlais avec d'autres podcasteurs qui disaient ça te prend 8 à 12 heures. Puis j'étais comme, ouais. Puis c'est pour ça que je voulais un petit peu savoir ton pouls là-dessus. Puis définitivement, si toi, tu rajoutes la lecture, ben là, on n'en parle plus. On parle même plus du temps. Fait que c'est un beau cadeau que tu fais à la société. Et pour ton conseil que tu donnais, d'ailleurs, Olivier, notre ami Olivier, est venu sur le podcast, Olivier D. Puis il a dit un peu la même chose. Je vais juste le paraphraser, mais il a dit quelque chose comme « Faut que tu sois motivé en maudit pour sortir un épisode par semaine. » Il dit comme « Assure-toi que tu es motivé parce que tu vas voir que les semaines viennent vite puis tu peux vite décrocher. » Je voulais qu'on parle un peu, avant de finir, je voudrais qu'on parle... On n'a pas parlé de ta carrière de photographe un peu comme on dit... Aujourd'hui, tu as parlé de ta carrière de professeur. Ensuite, tu es venu à ta carrière d'investisseur immobilier. Aujourd'hui, tu as comme un recul de vouloir faire des choses peut-être plus comme plus simple, je dirais plus simple, tu sais, qui a peut-être besoin de moins de capital. Tu n'as pas besoin du permission giver, comme tu l'appelles, pour commencer. Tu as commencé ta business de photographie et avec le coronavirus, la photographie, on s'entend que c'est mort. Il n'y a plus aucun événement qui va t'engager. pour un temps, en tout cas, pour un temps. Et tu t'es lancé dans le web. Premièrement, tu sais que je suis développeur web depuis 20 ans. Donc, je comprends ton ambition. Je suis content. Je voulais juste que tu nous parles un peu de c'est quoi ta vision, c'est quoi ta vision de l'avenir. Justement, j'ai vu aujourd'hui sur LinkedIn que tu postais, que tu utilisais WordPress, que j'utilise aussi d'ailleurs. Donc, je veux juste que tu nous parles un peu de comment que c'est parti, comment que tu as pivoté, Puis c'est ça que les gens ne réalisent pas. Tu peux à peu près faire ce que tu veux aujourd'hui. Tu te formes sur Udemy, sur YouTube, puis tu es prêt à commencer. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur au monde en site WordPress pour commencer à aider des gens. Tu as juste à être meilleur que eux, puis les guider là-dedans, et tu bâtis ton expérience. Et c'est l'astuce que tu prends dans tes entreprises, puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu de c'est quoi ta vision, qu'est-ce que tu vises comme client, qu'est-ce que tu veux apporter au monde avec le développement web.
OK, je commence avec les photographes, mais c'est des développements web, c'est similaire. Alors, j'ai fait du coaching à des personnes qui voulaient devenir entrepreneurs. Alors, j'avais une conversation avec une fille. Et elle me disait que son rêve, c'était de devenir photographe. Et puis, on parlait de ça. Je disais, alors, qu'est-ce que ça t'empêche? Parce que elle avait déjà un portefeuille de photos. Je l'aimais bien. Elle avait une belle caméra. Elle avait une belle personnalité. Alors, je disais, qu'est-ce que t'empêche? Pourquoi tu n'es pas un photographe? Alors, elle dit, je n'ai pas la formation nécessaire. Il faut que j'aille à l'université et que j'ai un diplôme pour devenir photographe. Et je dis, non, c'est pas correct. Écoute, il faut que tu sois sincère. Si tu n'as pas de diplôme, il faut que tu mettes ça à l'avant et que tu dises, OK, je suis un photographe, mais je n'ai pas de diplôme. Engage-moi quand même. Elle dit, non, j'ai vraiment peur, je n'ai pas la formation, il faut que j'ai un diplôme. Alors j'ai dit, écoute, je vais le faire pour te montrer que c'est possible. Moi, je vais acheter une caméra, je vais mettre une annonce sur Craigslist et mon annonce va être photographe sans beaucoup d'expérience, j'ai fait le travail pas cher. Et c'était plus ou moins ça que j'ai mis comme annonce sur Craigslist. Et tout de suite, j'ai commencé à avoir des appels. Et j'ai fait quelques contrats et j'aimais ça. J'aimais ça être dans les mariages. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la photographie, c'était comme un passeport pour entrer dans les cultures différentes. Alors ici à Montréal, on a telle diversité culturelle. Et tout à coup, j'étais dans un mariage indien. Et puis, la semaine après, j'étais dans un bar mitzvah juif. Et puis, plus tard, j'étais dans un anniversaire, je ne sais pas, de latino. Et chaque fin de semaine, c'était comme ouvrir mon magasin National Geographic et rentrer dans une culture complètement différente. Et moi, j'ai fait ça, la photographie, pendant 3 ans, je vais arrêter maintenant cette année, surtout avec le coronavirus. Mais je pense que j'ai appris ce que je voulais apprendre. Et c'était bien jusqu'à les derniers quelques mois, j'ai commencé à dire, j'étais un peu fatigué de ça. Mais c'était plutôt un expériment que j'ai fait pour montrer à quelqu'un d'autre que c'était possible. Et il fait plus ou moins 3 mois, j'ai fait une session de coaching avec quelqu'un d'autre. Et c'était un développeur web. Mais lui, il était employé toute sa vie. Et il était mis dehors. Il a perdu son travail pour une autre raison. Et je lui ai dit, mais tu peux te lancer toi-même. Il faut juste ça. Mettre une annonce et dire je suis développeur web, freelancer et je suis disponible. Et lui aussi, il avait des peurs et je ne savais pas pourquoi, parce qu'il faisait, je ne sais pas, plus de 5 ou presque 10 ans qu'il fait ça comme travail. Et je ne pouvais pas croire. Alors, Pendant quelques années, j'ai toujours fait mes propres pages Internet. Dans le chemin, j'ai appris une chose ou l'autre. Alors, le plus que je l'ai parlé, le plus que mes propres idées m'ont vendu à moi-même. Et j'ai dit, OK, écoute, j'aime ça, ce que je lui dis à ces personnes-là. Je vais l'essayer moi-même. Et voilà, il fait 5 semaines que j'ai mis une annonce, j'ai fait des pages web et j'ai déjà fini 3 projets. Et voilà, c'était comme j'étais inspiré par des autres personnes et je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais à ce moment-là, je suis engagé, ça m'intéresse, ça me donne des satisfactions d'apprendre beaucoup de choses différentes tous les jours. Et en même temps, être capable d'aider à des autres personnes.
Bien, je peux te dire que tu as fait un très bon choix parce que moi, ça fait, on dira pas le nombre d'années, mais ça fait longtemps que je fais ça. Et c'est sincèrement le plus beau métier du monde.
Wow.
Tu sais, comme programmeur, moi, je suis programmeur freelance aussi. Je suis dans le web. Je suis plus en back-end. C'est sincèrement, écoute, j'ai le goût de taper ceux qui disent, qui se plaignent. Tu sais, j'ai des amis programmeurs, là. Ah, oh, on n'est pas payé assez. Écoute, on est tellement chanceux, on travaille de où on veut, on n'a pas, comme, tout est merveilleux. Fait que tu as fait un super choix là-dessus. Je te souhaite beaucoup de succès parce que c'est le fun. C'est vraiment un beau métier. C'est intéressant, c'est stimulant. On aide les gens, puis on gagne bien notre vie.
OK, oui, j'aime ça. Et aussi, je suis en train d'apprendre la gestion de optimisation de... page Internet, SEO, comme on dit ça en français?
En français, c'est optimisation pour les moteurs de recherche.
Et c'est ça. Et aussi, je trouve ça super fascinant aussi.
Parfait. Que je vais juste, avant de... J'ai 2 petites dernières questions, puis après, je te laisse aller. Y a-t-il une question que j'ai oublié de te poser, que j'aurais dû te poser?
Non, je pense que tu as fait ta recherche bien fait.
Excellent. Si tu as le plus gros panneau publicitaire de Montréal, je te l'offre gratuitement. Qu'est-ce que tu écris dessus?
N'avoir pas peur d'essayer quelque chose de nouveau.
Cool. Si les gens veulent te joindre, c'est quoi le point de contact?
AlainGuillot.com.
Ça, c'est la meilleure place. Ton blog, ton podcast est là-dessus. Sinon, sur LinkedIn.
Sinon, LinkedIn, j'aime ça.
Alain, je te remercie énormément pour ton temps. Je sais que c'est un long form. Merci pour ton temps. Merci pour tout ce que tu offres aux gens. Allez voir son blog et venez suivre-le sur LinkedIn. C'est sincèrement écœurant comme contenu.
Wow! Tu sais, Francis, c'était un gros défi pour moi de faire ça en français. Je ne m'exprime pas beaucoup en français. La plupart de mes amis et clients sont anglophones. Alors, j'avais beaucoup de peur, mais je te remercie beaucoup pour m'avoir fait l'invitation. Et oui, tu fais un travail formidable. Merci beaucoup.